Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, la suite des débats de Punchline, mais tout de suite, c'est le journal avec Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Les violences se multiplient entre les supporters de foot avec une nouvelle série d'incidents. Hier soir en Ligue 1, la commission de discipline va prononcer des sanctions.
Christiane Taubira refuse d'appeler les Guyanais à se faire vacciner. Elle est pourtant une voix qui porte dans ce département d'outre-mer où le virus circule beaucoup. Vous entendrez la réaction d'un médecin en Guyane.
Les partisans d'Éric Zemmour se mobilisent pour l'inscrire à la primaire de la droite. Marine Le Pen estime qu'il n'a aucune chance de gagner la présidentielle.
La SNCF va lancer des Ouigo roses. Ils iront moins vite que les TGV, mais ils seront surtout beaucoup moins chers. Les détails dans ce journal. La tendance météo, Marlène Duret.
Alors encore une belle journée d'automne demain, mais avec un petit peu plus de nuages qu'aujourd'hui. Puis il fera aussi moins frais dans le nord par rapport à ce matin. On fera un point complet à la fin du journal.
Europe 1.
Depuis la reprise de la Ligue 1, les mêmes images se répètent très loin du sport. Les violences entre supporters se multiplient dans les stades.
La commission de discipline de la Ligue de football se réunit ce soir. Réunion d'urgence après une série d'incidents hier, comme à Montpellier et à Angers. Un bus caillassé, des terrains envahis, des bagarres, des jets de projectiles. Depuis le début de la saison, les supporters montrent leur plus mauvais visage. Jean-François Pérez, la Ligue va-t-elle prendre des décisions radicales ?
Bien, en tout cas, elle y est poussée par le gouvernement, mais elle n'a pas de pouvoir de police ou de justice. Impossible, par exemple, pour la Ligue d'interdire des déplacements de supporters. C'est du ressort des préfectures. Alors, on s'oriente ce soir, dans un premier temps, vers la fermeture de ce qu'on appelle les parkages visiteurs. Un degré supplémentaire dans l'échelle des sanctions, qui n'ont peut-être pas été assez dissuasives dans le cas de Nice OM, reconnaît le député LREM Sacha Houlier. Il était l'invité d'Europe Midi.
Les sanctions, en tout cas, qui ont été prononcées pour Nice OM, elles n'ont pas été comprises. Il y avait été de ceux qui disaient que le match ne devait pas être rejoué. Donc, on puisse bien comprendre que lorsque sont commis des actes d'une telle violence et d'une telle gravité, eh bien, on ne peut pas laisser faire et ne pas le donner à rejouer.
Alors Angers-OM est allé à son terme, il ne sera pas rejoué, mais le club d'Angers pourrait être sanctionné pour défaut de sécurité. Les enquêtes prendront ensuite le relais pour déterminer les responsabilités des supporters. Une chose est sûre, les taux se resserrent. Le préfet de Haute-Corse a interdit le déplacement des supporters d'Ajaccio à Bastia. Même chose pour son homologue de la Loire en vue du derby Saint-Étienne-Lyon. Enfin, le club de Lens déconseille le voyage des supporters à Marseille dimanche. Le foot français est passionnant sur le terrain, mais malade en tribune.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Christiane Taubira refuse de lancer un appel à la vaccination en Guyane.
Et l'ancienne ministre estime qu'elle n'a pas assez d'informations pour donner une consigne. Elle refuse de décrédibiliser sa parole, mais précise qu'elle n'est pas anti-vaccin. La position de Christiane Taubira surprend les médecins en Guyane. La Guyane, où moins de 30% de la population est vaccinée et où l'épidémie galope. Au centre de vaccination de Cayenne, le docteur Guillaume Hiché ne comprend pas.
C'est un bel exemple de la situation à laquelle nous sommes confrontés au centre de vaccination, mais aussi ailleurs en Guyane sur les structures de soins, c'est-à-dire des politiques qui n'osent pas appeler à la vaccination franche et massive de la population. On sait très bien qu'il y a une hostilité de base de la population guyanaise dans le vaccin qui est proposé depuis maintenant 7-8 mois. Ce rythme-là, il nous faudra 4 ans pour avoir une immunité collective en Guyane qui soit suffisante pour nous protéger. Et quand un politique laisse entrevoir, on va dire, un début d'inquiétude, de défiance ou de méfiance dans la vaccination, évidemment que ça n'aide pas. Ce dont on a besoin, nous, c'est qu'il nous aide et qu'il nous appuie à prendre position sur la vaccination parce qu'on se sent réellement seul.
Le docteur Guillaume Hiché au centre de vaccination de Cayenne, en Guyane.
Jean Castex, le Premier ministre, annonce un plan pour le grand âge.
Jean Castex a présenté aujourd'hui un train de mesures à 400 millions d'euros pour améliorer les conditions de vie en EHPAD et pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Zoé Pallier.
Oui, plus de la moitié de cette enveloppe concerne le secteur d'aide à domicile. En tension avec le vieillissement de la population et la demande qui explose. Alors parmi les mesures phares, il y a ce nouveau financement de l'État pour instaurer un tarif plancher. Les prestataires percevront au moins 22 euros par heure partout en France. Alors qu'aujourd'hui, le tarif varie en fonction des départements et que dans un cas sur deux, il est inférieur à 22 euros. L'annonce est donc accueillie avec soulagement par Jean-François Auclair, directeur d'O2, société de services à la personne.
Aujourd'hui, quand certains départements vous financent à 17 euros de l'heure, une fois que vous avez payé votre salarié les charges patronales, il n'y a plus rien. Dans ce contexte-là, ça va nous permettre de retrouver des marges légèrement supérieures. Et ces marges-là, on va les réinvestir, notamment sur la partie politique salariale. Ça va permettre d'attirer des salariés. Aujourd'hui, nous avons du mal à recruter. On doit investir pour former et pour attirer des jeunes dans nos métiers.
Augmenter les effectifs aussi dans les EHPAD pour améliorer la qualité de l'accueil, car plus de personnel veut dire plus de temps consacré à chaque résident. Objectif, créer 10 000 postes supplémentaires d'ici à 2026.
Merci Zoé. Entre Paris et Washington, l'heure n'est pas encore à la réconciliation dans la crise des sous-marins. À New York, Jean-Yves Le Drian prévient son homologue américain Anthony Blinken. La sortie de crise prendra du temps et elle requiert des actes, ajoute le ministre des Affaires étrangères.
Climat attendu au procès des attentats du 13 novembre. La Cour est revenue aujourd'hui sur l'examen des corps des victimes.
À la barre, le professeur Bertrand Lude, directeur de l'Institut médico-légal de Paris. Le médecin légiste a livré le récit très dur de l'analyse des corps des 130 victimes des attentats. Dans un climat lourd à l'audience, les familles ont demandé des réponses quant aux erreurs commises à l'époque. Gladys Laffitte.
Oui, pourtant, dès le début, le professeur Lude avait prévenu, il ne veut pas parler de l'identification des victimes à la charge des policiers et non des médecins légistes. Mais il n'a pas pu empêcher les questions précises et empreintes de douleur de nombreux avocats de partie civile. Pourquoi leur fille n'a été identifiée qu'au bout de plusieurs jours? La confusion était telle que son père a encore eu l'espoir qu'elle était vivante, s'exclame une avocate. 8 mois pour envoyer le compte-rendu de l'examen du corps, est-ce que cela répond à la douleur des familles? 5 minutes dans la salle de présentation, trouvez-vous cela supportable pour les proches, tonne un autre avocat qui avait reçu 83 mails de questions de ses clients pour le professeur. Si ça s'est passé comme ça, je suis confus, répond froidement l'intéressé. Mais ça s'est passé comme ça, crie une femme dans la salle. Replié derrière son classeur rouge et ses fiches Bristol, le directeur de l'IML ne peut que décrire cliniquement les blessures terribles qui ont causé la mort des victimes. Entre le monde qui est le vôtre et celui des familles, il y a un fossé extrêmement lourd, résume finalement dépité un avocat.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre 2015.
Restez avec nous dans un instant. Éric Zemmour peut-il participer à la primaire de la droite? Ses soutiens y travaillent activement. A tout de suite sur Europe 1. Et on se retrouve dans le journal de 19h avec Alexandre Lemaire. Alexandre, les partisans d'Éric Zemmour aimeraient le voir participer à la primaire de la droite.
Oui, les soutiens du chroniqueur et pas encore candidat s'affairent en coulisses pour l'inscrire à la possible primaire des Républicains. En pratique, cela ferait d'Éric Zemmour l'un des compétiteurs pour devenir le candidat de la droite et du centre, Alexandre Chauveau. Alors, est-ce qu'Éric Zemmour aurait sa place dans cette primaire?
Eh bien, a priori, sur le papier, peu de choses l'en empêchent. Il faut dire qu'Éric Zemmour ne jure que par le général de Gaulle et revendique se retrouver dans le programme du RPR des années 90, qui tenait alors un discours fort sur l'immigration, discours toujours très populaire dans l'électorat des Républicains. Sur la forme, les choses semblent un peu plus compliquées. Gérard Larcher et Christian Jacob, deux ténors du parti, ont marqué leur opposition à une telle démarche en mettant en avant des différences de valeurs entre Éric Zemmour et les Républicains. Pour autant, l'essayiste, on l'a dit, séduit les électeurs de droite. Il n'a certes pas sa carte du parti, mais Xavier Bertrand et Valérie Pécresse non plus. Et réunir les 250 parrainages d'élus nécessaires pour participer ne devrait pas être insurmontable. Reste que cela serait une vraie surprise pour beaucoup, car Éric Zemmour a toujours vanté la tradition de la 5e République et la rencontre entre un homme et le peuple. Mais l'essayiste a pris l'habitude de jouer les troubles faits et l'absence de vrai leader à droite pourrait favoriser sa démarche. Le trublion Zemmour n'aura jamais aussi bien porté son nom.
L'ascension d'Éric Zemmour coïncide avec la chute de Marine Le Pen dans les sondages. Entre les deux, Marion Maréchal refuse de se prononcer. Elle ne dit pas si elle soutiendrait sa tante ou Éric Zemmour, pour qui elle a eu des mots bienveillants cet après-midi. En visite en Moselle, Marine Le Pen ne croit pas au succès d'une candidature Zemmour.
Marion, qui s'est éloignée de la vie politique, n'a peut-être plus les capteurs nécessaires. Peut-être justement cet éloignement avec le terrain politique lui probablement fait penser que l'agitation médiatique correspond à la réalité politique. En ce qui me concerne, je ne le crois pas. Et je pense qu'Éric Zemmour n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Parce qu'il est à 10% dans un sondage. Ce que je note, c'est qu'il y a des variations aujourd'hui qui sont liées à une agitation médiatique, je le pense. J'ai vu beaucoup de candidats ainsi susciter un intérêt médiatique. Et puis, en réalité, lorsque l'intérêt médiatique s'essouffle, eh bien, ces candidats, les candidatures de ces personnalités elles-mêmes s'essoufflent.
Marine Le Pen avec Alexis de La Fontaine.
La SNCF va lancer des Ouigo roses, moins rapides mais surtout beaucoup moins chers.
Des Ouigo roses, c'est logique pour des trains corail car on ne parle pas ici de TGV. Au printemps prochain, la SNCF va développer son offre Ouigo sur des trains et des lignes classiques. Ils iront moins vite, c'est sûr, mais surtout, le tarif sera imbattable, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est effectivement l'idée de cette nouvelle offre, des billets pas chers pour ceux qui souhaitent voyager en dernière minute. Peu importe la date de réservation, un mois ou un jour avant le départ, vous paierez le même prix, soit entre 10 et 30 euros maximum selon les trajets, promet la SNCF. Ces trains corail rénovés vont arriver sur deux lignes pour l'instant, Paris-Lyon et Paris-Nantes. 14 gares en tout seront desservies pour des trajets forcément plus longs qu'en TGV. Mais c'est surtout pour proposer de nouvelles options et concurrencer l'usage de la voiture, précise Alain Krakowicz, le directeur général de Voyage SNCF.
On a aujourd'hui 700 000 personnes qui prennent les autoroutes tous les jours. C'est pour ça qu'on a ciblé Paris-Lyon et Paris-Nantes, parce que ce sont les deux marchés principaux. On souhaite pouvoir leur proposer une alternative écologique avec cet aspect très important de petits prix fixes jusqu'au dernier moment.
Et la SNCF a par ailleurs annoncé ce matin de futures destinations pour son offre classique de TGV low cost en direction de Brest, La Rochelle ou Perpignan à partir de l'année prochaine. Et puis aussi l'arrivée du service Ouigo Plus qui va permettre désormais de réserver sa place précisément dans le train et puis aussi de choisir différentes options de confort.
Merci Aurélien. Le gouvernement demande à la SNCF de revoir à la baisse ses ambitions pour la transformation de la gare du Nord à Paris, dans l'idéal autour de 50 millions d'euros de budget, c'est-à-dire beaucoup moins que le projet initial abandonné par la SNCF et qui avait dérapé à 1,5 milliard d'euros.
Et puis l'Union européenne veut imposer, Alexandre, un chargeur de smartphone universel.
Oui, le même pour tous les modèles, quelle que soit la marque. C'est un vieux rêve européen qui n'a jamais abouti, mais Bruxelles y croit toujours. La Commission a présenté aujourd'hui un projet de directive pour imposer cette prise unique pour les smartphones, mais pas seulement, mais les tablettes, les enceintes, les appareils photo. Clément Le Saffre, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les consommateurs ?
Alors oui, déjà parce que ça va nous simplifier la vie. On a tous des tiroirs remplis de chargeurs avec des embouts différents, tous plus inutiles les uns que les autres. Même si il y a eu des progrès, il faut le reconnaître, il y a 10 ans, il y avait 30 chargeurs de téléphones différents. Il n'en reste aujourd'hui véritablement plus que deux. Le chargeur avec port USB-C, le plus courant, compatible avec la quasi-totalité des smartphones sous Android et avec beaucoup d'appareils électroniques. Et puis le port Lightning, développé par Apple, est compatible uniquement avec des produits Apple. La firme à la pomme s'agace. D'ailleurs, pour elle, cette directive européenne va tuer l'envie d'innover des entreprises. Sauf que dans les faits, l'USB-C est aujourd'hui la meilleure technologie. Elle intègre la charge rapide et permet un transfert de données très efficace. Preuve que c'est la meilleure. Même Apple l'a adopté, alors pas pour les iPhones évidemment, mais pour ses MacBooks, les ordinateurs portables. Et c'est même finalement grâce aux innovations d'Apple que ce type de chargeur, l'USB-C, est devenu aussi puissant. Et puis, dernier argument en faveur de ce chargeur universel voulu par l'Europe, il y a de la concurrence sur les prix puisque n'importe quel fabricant peut produire de l'USB-C.
Clément Le Saffre.